verset 22, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole que je vais annoncer maintenant et je te prie que cela bénisse le cœur de mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Je te prie de bénir en particulier dans notre communauté notre sœur Isabelle, notre frère Eric qui est souffrant ce matin, renouvelle ses forces. Notre sœur Rachel aussi, soutiens-la Seigneur notre Dieu. Soutiens aussi notre sœur Esther qui passe par le deuil. Fortifie-la mon Dieu et bénis-la. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, on a tendance à dire le fruit de l'esprit et on pense que c'est le fruit du Saint-Esprit. Oui, parce qu'ils ont mis une majuscule. Mais si vous alliez comprendre autrement, c'est le fruit de notre esprit. Parce que le fruit de notre chair, c'est tout autre chose. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit et non pas par la chair, c'est-à-dire par notre esprit et non pas par notre chair, ah, c'est différent. Et si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire si c'est notre esprit qui commence à prendre les commandes de notre vie, alors nous allons marcher selon l'esprit. Alors là, on met une majuscule. Si nous vivons par l'esprit, alors à ce moment-là, nous marchons aussi selon le Saint-Esprit. Vous voyez, réfléchissez, regardez ce texte. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis que c'est une chose à réaliser, à penser. Nous devons marcher soit par la chair, soit par l'esprit. Alors c'est facile de dire je veux marcher par le Saint-Esprit, mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? Eh bien ce matin, c'est ce que je voudrais vous expliquer avec l'aide de Dieu. On vient de lire que par le Saint-Esprit, nous pouvons être maîtres de nous-mêmes. Et moi je vous dis que par notre esprit, nous pouvons être maîtres de nous-mêmes. Parce que notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Notre chair n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Notre chair, elle est soumise. Elle doit être maintenue dans la mort. La maîtrise de soi, maintenant. Nous venons de lire que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Le contraire, c'est ce que la chair produit, c'est-à-dire l'affolement et les actions désordonnées. L'incohérence, comme nous disait notre frère Richie ce matin. Maître de soi. Je crois que nous devons comprendre qu'avant de vouloir être maître de soi, il serait bon d'être humble et de reconnaître que nous avons besoin d'être des élèves, premièrement. Qui peut être maître en quelque chose sans avoir commencé par être un élève? D'accord? Ça montre bien que si nous devons marcher par l'esprit, alors nous devons, et que cela produit la maîtrise de soi, nous devons fortifier notre esprit par le Saint-Esprit et non pas par notre chair. Je vais développer ça. Parce qu'on a tendance, dans les milieux charismatiques, à croire que la maîtrise de soi relève du miracle que le Saint-Esprit opère en nous. Le Saint-Esprit, il produit la maîtrise de soi, mais comme il produit tout le reste, c'est-à-dire par la foi, par notre foi. Est-ce que vous avez déjà vu une chose qu'on puisse obtenir sans la foi? Il n'y a rien qu'on puisse obtenir sans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend dans le sens de ce qu'on comprend. Je dis « je t'entends bien », ça veut dire « je te comprends bien ». La foi vient de ce que l'on comprend de la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu au sujet de l'estime de soi? Au sujet de la maîtrise de soi? En lisant les histoires des hommes et des femmes qu'on trouve dans la Bible, eh bien, on peut facilement tirer des leçons. Notre chair va comprendre des choses. Par ces leçons que nous pouvons tirer de la parole de Dieu, nous pouvons acquérir une connaissance. Et tout ça, c'est encore au niveau de la chair. Et plus on connaît, plus on peut manifester notre foi, c'est-à-dire une action spirituelle. Je vous parlais de Pierre vendredi passé, et ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à aller écouter ça sur le net. Il nous est dit à un moment donné, et je ne vais pas vous donner la référence, je veux que vous alliez écouter cette prédication de vendredi. Il nous est dit que Pierre, ne sachant pas quoi dire, a dit que... Avez-vous déjà vu ça? Que Pierre, il ne savait pas quoi dire, alors il s'est mis à parler.
Ouais, oui.
Pierre a beaucoup changé, mais il a changé dans le temps. Les gens ont tendance à dire, moi je le dis aussi, qu'à partir du moment où il était baptisé dans le Saint-Esprit, tout était nouveau, il était courageux, il était formidable et tout. Il a commencé à le devenir. À partir du moment où il a soumis sa chair à la parole de Jésus-Christ, son Seigneur. Il a changé dans le temps parce qu'il a vécu des choses et il a su tirer des leçons des choses qu'il a vécues. Et le Saint-Esprit en lui avait ainsi la possibilité de produire un caractère différent. Mais s'il n'avait pas tiré les leçons des choses qu'il avait vécues, qu'il avait lues, qu'il avait entendues, le Saint-Esprit n'aurait rien pu faire au travers de lui. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis là ce matin? Pierre l'impulsif émotionnel, il va devenir petit à petit un homme sage. Petit à petit, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que tout est devenu nouveau. En réalité, c'est écrit que tout est en train de devenir nouveau. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et si nous laissons le Saint-Esprit agir, si nous lui donnons la possibilité d'agir, c'est-à-dire d'éveiller notre esprit, de mettre l'esprit dans la bonne direction, alors nous marchons selon l'esprit. Pierre, il avait des émotions. Et qui n'en a pas? Il paraît que les psychopathes n'ont pas d'émotions. J'ai appris ça. Non, je savais déjà ça avant, mais... J'ai appris ça. C'est dans Dexter. C'est terrible, ce truc. C'est terrible. On ressent parfois des bonnes émotions et puis parfois on ressent des mauvaises émotions. Ça vous arrive? Bon, alors vous n'êtes pas des psychopathes, ça va. Que font les bonnes émotions en nous? Ben, nous donnent du dynamisme, on a la pêche, on a de nouveau confiance en soi, c'est super. Bon. Et les émotions négatives, qu'est-ce qu'elles font en nous? Eh bien, elles nous dépriment, elles nous fatiguent, elles nous rendent pessimistes. Les émotions négatives, elles créent en nous un sentiment d'échec, un sentiment d'humiliation. Que fait-on quand on a une émotion positive? Eh bien, on ne cherche pas à la repousser, on se laisse aller à la joie, on se laisse aller, on devient volubile, on rigole, on est content, tout va bien, on est super, ça va. Mais, quand la peur vient, si on a le trac par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout de suite, on se met sur nos gardes et on cherche à combattre ces émotions, à les refouler, à les rejeter. Et on va même dire au nom de Jésus. Est-ce que vous avez remarqué que plus vous faites d'efforts pour chasser la peur, plus cette émotion négative augmente en vous? Est-ce que vous avez remarqué ça? Et on perd nos moyens de plus en plus. C'est vrai, c'est comme ça. Alors, si vous l'ignorez, je tiens à vous dire que les savants des boyaux de la tête, ils ont découvert, ils ont réussi à localiser d'où viennent les émotions. Nos émotions, elles viennent de l'inconscient. Ça, c'est le vocabulaire des scientifiques. Ça vient de l'inconscient. La zone des instincts, la zone de l'imagination, la zone de... Voilà. Alors, voilà où est le problème. Quand on veut chasser des émotions négatives, on utilise notre conscient, notre volonté, bref, notre moi. Et c'est impossible de gagner en se battant comme ça. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est ainsi. On ne peut pas gagner comme ça. On a deux aspects bien distincts en nous. On a un, le conscient, et puis on a le subconscient, l'inconscient. Alors c'est assez simple à observer. Je prends un cas qui fait peur aux chrétiens. Qu'est-ce qui fait se lever un somnambule au milieu de la nuit comme ça? Alors il se lève, puis tout nu ou habillé, il sort, il va à la cuisine, il fait des tas de choses, même il va dehors, voilà. Il marche sur les toits. Comment? Et puis après il rentre, et puis le lendemain matin on lui dit, mais cette nuit t'as mis... le boxon dans la cuisine, t'as fait des trucs et tout, ne se rappelle de rien du tout. Qu'est-ce qui fait agir le somnambule? Alors les TTTS, vous vous rappelez ce que c'est les TTTS? C'est quoi les TTTS? C'est les Les très 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 spirituels. Les très très spirituels vont vous dire c'est des démons qui font ça. Oui, ben c'est quand on propage des idées comme ça qu'on ferme la porte aux gens qui sont intelligents et qu'on les empêche de rentrer dans le christianisme. Arrêtez de mettre les démons à toutes les sauces. Ce qui fait se lever un somnambule, c'est son inconscient. Il est inconscient, mais il fait des choses. Et je vais vous dire une chose terrible. L'inconscient nous gouverne à notre insu. Autre chose, juste pour réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui vous gouverne à votre insu pendant que vous dormez? Vous ne respirez pas consciemment, vous ne digérez pas consciemment, vous ne réglez pas votre température consciemment. C'est votre inconscient qui est plus qu'un magnifique ordinateur qui fait tout ça. Et il ne se repose jamais. C'est lui, en fait, qui vous fait vivre. Et c'est ce que les chrétiens appellent, avec leur vocabulaire, avec notre vocabulaire, nous appelons l'inconscient l'esprit. C'est notre esprit. Quand Adam et Ève sont morts, leur esprit a cessé de les diriger. Ils ont commencé à être charnels, animal. Ils pensaient avec l'âme, ils réfléchissaient avec leur âme, ils agissaient avec leurs émotions, ils agissaient avec leur volonté. C'était plus l'esprit, c'était l'âme, le moi. Un chrétien, il a de nouveau accès à son esprit. Parlons de notre conscient. Notre conscient, ce qu'il est en train de m'écouter là, notre conscient a une mémoire très infidèle. Et puis il raisonne. Il n'accepte rien sans raisonner. Et il raisonne d'après ce qu'il sait déjà. Vous voyez, il est très limité. Comment voulez-vous qu'il raisonne avec des choses qu'il ne sait pas? Il ne raisonne que d'après les choses, qu'à partir des données qu'il a déjà. Et ça nous limite terriblement. Par contre, notre inconscient, notre esprit, il est pourvu d'une mémoire extraordinaire, impeccable, le mot impeccable signifie sans péché, et cette mémoire, elle enregistre à notre insu les moindres événements. Vous, quand vous allez sortir, vous ne vous rappellerez plus la couleur de la cravate du frère, ah non, il n'en a pas, Richie, vous voyez, je ne me rappelle plus qu'il n'y a pas de cravate. Notre conscience. Mais notre subconscient, notre esprit, notre inconscient, il se souviendra de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout, absolument tout, le moindre détail de votre vie, tout ça, c'est dedans. Et notre inconscient, il a une qualité extraordinaire, mais qui peut être un défaut terrible aussi, parce que c'est toujours les deux, il est crédule. Il accepte sans raisonner tout ce qu'on lui dit, il est innocent, comme Adam et Ève l'étaient au jardin d'Éden avant la chute. Maintenant, n'oubliez pas que c'est votre esprit, c'est votre inconscient qui préside au fonctionnement de tous vos organes. De tous vos organes. Il préside aussi à l'accomplissement de toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Souvenez-vous de ce que je vous disais. L'imagination et les émotions, elles résident dans votre inconscient. Alors, c'est pourquoi votre inconscient vous fait si souvent agir contre votre volonté. Vous voulez réussir, pourquoi vous ne réussissez pas? Pourquoi vous faites des choses à l'envers de ce qu'il faut faire pour réussir? Vous agissez autrement que vous le voudriez. L'apôtre Paul dit, je fais ce que je veux pas. Il parle en tant qu'inconverti, hein, quand il était inconverti. Il dit, mais grâce à Dieu maintenant, les choses ont changé. Vous agissez autrement que vous le voudriez. Ça, c'est le manque de maîtrise de soi. Vous n'êtes pas maître de vous. Et vous attirez à vous le contraire de ce que vous voulez. Parce qu'il y a antagonisme. Il y a antagonisme entre ces deux forces, entre l'inconscient et le conscient. L'inconscient, votre esprit, il est de Dieu, il vient de Dieu, il retournera à Dieu. Votre âme, ce n'est pas sûr. Elle est déchue. Elle peut être née de nouveau, mais elle a besoin de beaucoup apprendre. Et pas de se dire, je vais réfléchir d'après les choses que je sais déjà. Voilà pourquoi la Bible nous instruit, nous disant que nous devons repenser le problème de notre volonté. Qu'est-ce que la volonté? En tout cas, ce n'est pas pour une fois, hein, là vous allez être étonnés, ce n'est pas ce que dit le dictionnaire, la volonté. Le dictionnaire vous dit, la volonté, c'est la faculté de se déterminer librement à certains actes. Ben, c'est faux. Frères et sœurs, si c'était vrai, personne n'aurait le problème de manque de maîtrise de soi. Si c'était vrai, il suffirait que Stéphane, l'autre soir, on était en train de manger tranquillement, il nous a fait une crampe, mais une crampe à la cuisse. J'ai dit, c'est bien fait, il n'y a que les gens musclés qui peuvent avoir des crampes aux muscles. Donc, c'est une crampe épouvantable. Il savait ni assis, ni debout, rien du tout. Il est devenu blanc, les lèvres cyanosées, une douleur épouvantable. On a dû le coucher, prendre sa tension. On a pensé qu'il allait mourir. Si la volonté suffisait, notre frère Stéphane, il aurait pu détendre son muscle mercredi soir, rien qu'en le voulant. Oui ou non? Si la volonté suffisait, vous pourriez stopper une émotion négative comme ça. Rien qu'en le voulant. S'il suffisait de vouloir pour pouvoir, ça serait merveilleux. Ben non, pas du tout. Ça serait dangereux. Ça serait dangereux, parce qu'il suffirait de vouloir pour pouvoir le bien comme le mal. Par exemple, ça serait super, il suffirait de dire, ok, maintenant j'arrête de fumer, et hop, ça serait fait. Hein? Mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que la volonté, elle est, grâce à Dieu, inopérante en matière d'habitude, en matière d'habitude invétérée et doublée d'intoxication physique. C'est pas simple comme ça. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Ça, c'est un truc de coach, hein, on dit, il suffit de vouloir pour pouvoir. Alors, les gens disent, c'est parce que j'ai pas de volonté que j'y arrive pas. Et tout le monde reprend en cœur en disant, c'est parce que t'as pas de volonté que t'y arrives pas. Dites avec moi. C'est parce que t'y arrives pas. Et ça fait qu'aggraver la chose. Parce que notre esprit, il est crédule et il croit ça. Alors il est tout au fond là-dedans. Puis il dit, ben oui. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de volonté. Il s'agit de briser une habitude en agissant sur l'inconscient, c'est-à-dire sur notre esprit, sans que la volonté intervienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr, au départ, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, vous voulez les bonnes choses, vous ne voulez pas l'échec, vous ne voulez pas être dans le besoin, vous ne voulez pas être malade, vous ne voulez pas le mal, vous ne voulez pas vous sentir mal, vous voulez que le bien, donc votre volonté, là, elle est bonne, vous voulez le bien, vous voulez l'abondance, le succès, le bien-être, ça c'est être de bonne volonté, vous voulez le bien de votre famille, vous voulez le bien de vos amis, vous voulez le bien de la communauté, vous voulez le bien de la France. Mais ça c'est une bonne volonté, mais ça ne suffit pas de vouloir. Sachez que la bonne volonté ne pourra jamais rien faire. Ça ne suffit pas. Ce que vous devez faire, c'est arrêter de vous battre charnellement avec vos raisonnements, avec votre volonté, avec votre honte, avec votre courage. Stop ! Parce que c'est un combat spirituel. Tout est spirituel. Et si ce n'est pas par l'esprit que vous vous battez, si c'est par votre volonté, vous êtes fichu. Vous n'y arriverez pas. Vous ne ferez que les choses à l'envers de ce que vous voulez, pour arriver au résultat que vous ne voulez pas. Alors parlez à votre esprit. Dites-lui des choses qu'il va croire. Il croit tout. Dites-lui des choses qu'il va croire et qui sont bonnes. Dites-lui, j'ai le plus grand intérêt à me débarrasser de mes dettes qui sont néfastes pour ma vie. Par exemple, vous dites-lui, j'ai le plus grand intérêt à me débarrasser de la désobéissance, ou j'ai le plus grand intérêt à me débarrasser de, et vous mettez ce que vous voulez là derrière. Parlez à votre esprit d'une façon positive, de foi, intelligente, mais positive. Ça, c'est être humble. Ça, c'est être réaliste. Ça, c'est être intelligent. Ça, c'est manifester une bonne volonté de la bonne manière, spirituellement. Et puis continuez à parler à votre esprit, à votre inconscient, il croit tout. Hein? Alors dites-lui, quand j'aurai cessé de boire, par exemple, si c'est votre problème, hein, par exemple, quand j'aurai cessé de boire, mon énergie sera plus que doublée. Et quand j'aurai arrêté de boire, j'aurai augmenté ma résistance à la fatigue. Et dites-lui des choses comme ça. Parlez à votre esprit de façon à ce qu'il puisse travailler avec les déclarations constructives que vous faites et non pas vos déclarations de manque de foi. Je n'ai pas de volonté, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, la preuve est dans mon passé, je suis un nul. Ah bon ? Votre esprit le croit. Dites-lui par exemple, quand j'aurai arrêté de fumer, mon souffle sera renforcé. Dites-lui, ma mémoire sera accrue et sera plus dans la fumée. Ainsi, j'aurai plus de pouvoir de concentration. Dites-lui des choses comme ça. Parlez-lui doucement, mais fermement. Sans l'engueuler, il ne faut pas l'engueuler, mais fermement. Il vous croira. Il est crédule. Dites-lui, quand je serai débarrassé de mes dettes, je serai une autre personne. Je pourrai faire des tas de choses magnifiques. Ça sera merveilleux. Et réjouissez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vos suggestions vont commencer à prendre racine dans votre esprit. Les suggestions que vous aurez semées en vous vont commencer à prendre racine. Tout est semence au départ. Vous êtes une semence vous-même. On est tous une semence. Tout est semence au départ. Eh bien, si vous semez des bonnes suggestions dans votre esprit, ça va petit à petit prendre racine. Et écoutez-moi bien, pendant votre sommeil, ça va travailler en vous et en dehors de vous. Vendredi soir, allez écouter le message de vendredi soir. Je vous ai observé que Jésus, sans doute lassé par toutes ces incompréhensions charnelles et bêtes de ses disciples, il devait se dire, non mais ils ne s'imaginent pas, ils ont le Fils de Dieu devant eux, ils ne se rendent même pas compte, mais quelle nouille, pourtant ils voient que c'est pas bon. Tellement il en avait marre, il a dit un jour, bon, si vous voulez bien le comprendre, il a commencé à enseigner quelque chose. Si vous voulez bien le comprendre, dans d'autres versions, si vous voulez bien l'admettre, excusez-moi, mais si vous voulez bien écouter ce que je vous dis, puis y croire, ça veut dire ça, hein, croyez en moi. Hein, si vous voulez, dans une version, si vous voulez bien accueillir ce que je vous dis, non, mais vous rendez compte à quel point Jésus a été rendu face à l'imbécilité de ces pauvres disciples. Hein, ils ont évolué. Je vous dis, faire comme. Il faudra couper le beurre. Hein. Jésus devait parfois prendre des gants avec eux, si vous voulez bien admettre. Ça devait l'énerver. Il avait le pouvoir de faire ping et il changeait, il devenait merveilleux tout de suite, mais il ne le faisait pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec lui. Et ce matin, je vous dis de même, si vous voulez bien l'admettre, la Bible a raison toujours. En ce qui concerne le psaume 127:2, aussi, elle a raison. Il n'y a pas que Félicie hein, qui a raison. Mais la Bible aussi a raison dans le psaume 127:2. Qu'est-ce que c'est le psaume 127:2? Je vous le lis. Attention, vous êtes accrochés. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon, c'est pas que vous êtes des mal-aimés, parce qu'il donne ça à ses bien-aimés. C'est pas que vous êtes mal-aimés si vous n'avez pas l'abondance, ou si vous n'avez pas la santé, ou si vous n'avez que des problèmes. C'est juste que vous n'avez pas admis, vous n'avez pas compris que je veux votre bien. Parce que je suis porte-parole, je pourrais vous apporter une parole fausse, je vous apporte une parole vraie. Je veux votre bien, mais ça ne suffit pas de vouloir. Encore faut-il que vous l'admettiez. Que mes prêches n'ont pas d'autre but que votre bien et le bien de votre famille. Alors admettez ce que je vous dis. Admettez qu'un travail se fait la nuit pendant votre sommeil. Il y a des paroles de Jésus qui semblent complètement irréaliste. Par exemple, Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. Écoutez ça. Franchement. Franchement. Jésus, t'es sûr? Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et il ne dit pas « Maintenant je vous donne la solution, mais c'est ça que ça veut dire. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Ça paraît complètement irréaliste, hein? Ben non, c'est pas irréaliste, c'est simplement spirituel. Et nous sommes tous invités à être des gens spirituels, à agir spirituellement, c'est-à-dire par l'esprit. Agir spirituellement, c'est pas être... Non, c'est agir par l'esprit, en cohérence avec l'esprit, selon les règles de l'esprit, et non pas selon les règles de la chair, pas selon les règles de notre moi, pas selon les règles de notre conscient. Un autre texte, Jean 6, 27. Celui-là, il bat tous les records. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent. On est tous en train de travailler pour payer. Oui ou non? Ça ne veut pas dire que Jésus nous dit, mais ne faites rien, ne travaillez pas. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit juste de travailler pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Qui le fait? Quand vous travaillez sur votre inconscient, c'est-à-dire sur votre esprit, sur la partie de vous qui est divine. Quand vous l'ensemencez avec de bonnes pensées constructives de foi que vous avez puisées dans les Écritures et dans les prédications, vous vous formez un caractère qui va demeurer en présence de Dieu pour l'éternité. Par exemple, juste avant de vous endormir, avant d'entrer dans ce sommeil durant lequel Dieu va tout arranger, dites, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans le vert pâturage, je ne manquerai de rien, plutôt que, enfin cette journée est terminée, je me demande comment ça va être demain, il n'y a aucune raison pour que ça change, je suis tordu, je suis bête, je suis stupide, je suis crétin, et puis je fais que de m'enfoncer, et puis comment je pourrais faire mes coups? Vous comprenez? Ben, j'ai bien une solution, mais elle n'est pas spirituelle, mais enfin bon, Seigneur, tu me pardonneras. Songez à cela. Semez cela en vous, les bonnes phrases spirituelles de foi. Semez ça dans votre esprit et dormez. La parole du psaume 127,2 s'accomplira pour vous à tous les coups. À tous les coups. Il vous donnera ce dont vous avez besoin pendant votre sommeil. Pas quand vous êtes en train de vous battre avec votre volonté qui vous fait faire les choses qu'il ne faut pas. Dites, chaque jour, je suis de plus en plus en paix. Chaque jour, je suis de plus en plus calme. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Je fais de moins en moins des choses que je ne veux pas faire. Chaque jour, je fais de plus en plus des choses que j'aime et qui m'apportent du bien-être. Chaque jour, je progresse. Chaque jour, un petit peu. chaque jour, un petit peu. Pierre n'a pas changé de tact parce qu'il s'est mis à parler en langue. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites pas ça seulement une semaine ou 10 jours. Faites-le sans cesse. C'est ça l'esprit de prière. Tous les jours, avant de vous endormir. Et pourquoi? La réponse est simple, c'est parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Parce que vous avez besoin de vous débarrasser des mauvaises habitudes, des habitudes de mauvaises pensées, des habitudes d'échec, des habitudes de colère, des habitudes de dire n'importe quoi, comme l'apôtre Pierre, et de faire des mouvements impulsifs. Il s'agit de vous débarrasser des habitudes de peur. Dans la vie, c'est l'amour ou la peur qui dirige tout. Être maître de soi, c'est aimer, c'est faire confiance. C'est vivre comme l'esprit qui est en vous, être crédule, mais croire des bonnes choses. Être maître de soi, ce n'est pas s'affoler. Être maître de soi, ce n'est pas être, c'est pas se désespérer. Être maître de soi, ce n'est pas sursauter pour n'importe quoi, au moindre bruit. Ce n'est pas se couper de la communication avec les autres de peur que... Mes frères et sœurs, c'est d'esprit à esprit que la victoire se construit. Ce n'est pas d'âme à esprit. Non, monsieur. C'est d'esprit à esprit, pas d'âme là-dedans, pas d'état d'âme là-dedans. Il y a longtemps, je vous enseignais en vous disant que votre esprit est un jardin, vous vous en souvenez? Qui produit tout ce que vous semez en lui, vous vous souvenez? Il y a des années, hein, on était encore à Sarcelles. Et je vous disais aussi que votre âme, votre moi, votre conscient, c'est un jardinier qui choisit ce qu'il va semer dans son jardin. Si vous êtes un jardinier charnel, vous allez croire des choses stupides. Et vous allez mettre dans votre esprit des semences idiotes. Et ça va produire des idioties. Que voulez-vous semer dans votre esprit? Si vous êtes chrétien, vous avez une bonne volonté, donc vous voulez semer des bonnes choses dans votre esprit. Votre esprit, il est en communion avec le Saint-Esprit. C'est le seul qui peut être en communion avec votre esprit. Votre corps ne peut pas être en communion avec le Saint-Esprit. C'est la chair. Votre âme ne peut pas être en communion avec l'esprit. C'est tout le côté animal. Mais votre corps et votre âme peuvent être soumis à l'esprit. Et ils doivent être soumis à l'esprit. Sans quoi, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, il y a incohérence. Et ce qui brise l'action du Saint-Esprit qui veut votre bien, qui veut vous mener dans des verts pâturages et tout ça, c'est votre moi stupide, votre moi instinctif qui finalement devient un moi orgueilleux. Je sais. Moi. Alors obligez-vous, obligez votre moi, votre âme à pratiquer des exercices spirituels. Alors je vais vous dire quelque chose, vous ne le ferez que si vous voulez bien l'admettre. Vous ne le ferez que si vous voulez bien admettre que ce que je vous dis est vrai. Si vous voulez bien le comprendre. Est-ce que je veux le comprendre? Ça vous rappelle quelque chose? Je vous le dis, si vous le faites, selon les paroles de Jésus, Jean 6, 27, Matthieu 6, 25, 34 qu'on a lu, selon ses paroles, dans quelques temps, très peu de temps, votre jardin, votre esprit va produire de bons fruits. Pas seulement dans le domaine matériel, mais dans le domaine matériel aussi, parce que tout est dans les mains de Dieu, et ça marche avec des règles. Dans quelques temps, votre esprit va produire de bons fruits pour votre vie de tous les jours. Voulez-vous le comprendre? Voulez-vous l'admettre? Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça demande de la repentance. Seigneur, pardon. Pardon. J'ai voulu faire pour le bien. J'ai pas voulu faire pour le mal. Mais j'ai fait avec ma volonté. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes possibilités charnelles. Et puis voilà où j'en suis maintenant. Bon, ben maintenant, Seigneur, je me repens. Pardon, maintenant je veux agir comme ton serviteur a dit. Il s'agit d'une conversion. Les gens pensent qu'ils se sont... Moi, je pense, j'ai toujours cru, voilà, je me suis converti le 1er juin 1968 avec Raphaël Duval. Non, c'est pas vrai. On se convertit souvent dans la vie. Souvent, on a besoin de revenir à la source et marcher sur les chemins anciens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus veuille bénir ces choses et permettre que mes frères et sœurs veuillent bien l'admettre. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.